Clélia, Céleste, Suzy, Amandine, Alice, Romain, Elliot, Melchior, Yannick, Kémo et Mohamed ont animé sur Bram FM toute une émission le 4 juillet de 9h à 18h à l'occasion du Livrodrome qui proposa ce jour-là, sur le quai de Baluse à Tulle, plein d'animations originales autour des livres. Une opération Partir en livre à l'intention des jeunes et des ados. Toute cette équipe, fans de lecture, ont reçu et interviewé longuement les auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices dont vous retrouverez ici les podcasts. Ici, c'est toute l'équipe qui accueille Franck Bouys au plateau de Bram FM. Annoncé en dernière minute comme invité du Livrodrome, aucun ni aucune de l'équipe n'avait préparé sa venue. Ça a été 40 minutes d'échange passionnant.
Bram FM en direct du Livrodrome, des livres, des auteurs, des illustrateurs, des jeux, des chèques-lire à gagner, des débats enflammés, tout ça dans une émission marathon animée par des jeunes passionnés de lecture. C'est Kébaluz.
Et c'est sur Bram FM. Alors bonjour, nous sommes de nouveau en direct du Livrodrome de Tulle. Aujourd'hui, en tout cas maintenant, nous sommes en compagnie de Franck Bouys. Bonjour. Vous n'avez pas de micro, mais vous dites bonjour quand même.
Bonjour.
Vous êtes auteur et nous allons vous questionner sur cette partie de votre vie, sur vos œuvres. Et donc c'est parti, je pense que quelqu'un avait peut-être préparé une partie de la vie de Franck Bouys, non ? Personne ? Ah oui, c'est vrai, vous étiez l'invité mystère, c'est ça ? Voilà. Donc nous n'avons pas pu préparer quoi que ce soit sur vous. Finalement, mais nous avons eu accès à l'un de vos textes présents dans un livre que nous avons ici qui s'appelle « L'enfance c'est » et qui est coécrit avec 120 auteurs et qui est composé d'illustrations et donc de petits textes sur l'enfance. Vous avez donc votre texte là-dedans. Je crois que quelqu'un va nous le lire. Nous avons un petit souci technique.
Donc la phrase, en tout cas, là c'était une phrase que vous avez écrite dans ce livre, c'était « L'enfance, c'est le testament dessiné à l'adulte que l'on deviendra ».
Voilà. On ferait 2 heures là-dessus.
Donc pouvez-vous nous en dire plus sur cette petite phrase qui veut dire beaucoup dans votre livre ? Je n'ai plus le micro. Si ?
Si,
je sais parce que je ne m'entends pas alors.
Ben...
Ok, donc pouvez-vous nous en dire plus pourquoi cette phrase exactement ?
Non, je vous en dirai pas plus.
Non ?
Non.
Vous n'en avez...
Non. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est d'où... C'est que tous les livres, tous mes livres, viennent de l'enfance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire... C'est un auteur sud-américain qui s'appelait Ernesto Sabato dit... Il n'y a pas d'œuvre artistique, quelle qu'elle soit, peinture, sculpture, musique, qui ne proviennent d'obsessions de l'enfance. C'est pour ça que je vous dis non. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de vous parler de mes obsessions. C'est
oui,
juste ça, c'était.
Je comprends.
Donc voilà. Donc je botte un peu en touche. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde des toiles de Monet, des toiles de Van Gogh, quand on écoute la musique de Bach, quand on écoute Jean-Louis Murat qui vient de nous quitter il y a peu, ou quand Mac McCarthy, il suffit de les lire ou de les écouter pour connaître leurs obsessions. Voilà. On n'écrit pas le même livre, on ne peint pas la même toile, mais on décline les mêmes obsessions. Et ça vient toujours, toujours, toujours de l'enfance. On ne fait pas de l'art, quel qu'il soit, pour régler des comptes avec soi-même, pour se soigner. Mais en tout cas, les exprimer avec une distance, ça permet, je pense, de mieux vivre et de mieux se connaître.
Donc vous vous basez sur le pilier de l'enfance.
Mais je n'en sais rien.
Construire.
Non mais ça, là c'est le recul que j'ai. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand je commence à écrire un livre, c'est-à-dire tout part en fait d'une image mentale, c'est-à-dire d'une émotion très forte qui me saisit. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle Glaise, qui commence en août 1914, quand les hommes partent à la guerre. Ma grand-mère m'avait offert la photo de mon arrière-grand-père juste avant qu'il ne parte. Il est dans son uniforme magnifique avec une cigarette, lui qui ne fumait pas, mais pour l'occasion il avait une cigarette comme ça, tout sourire, etc. Et il n'a pas duré très longtemps, il a été tué très, très rapidement dans la Somme. et elle m'a offert ce portrait, et elle m'a offert son carnet militaire, avec la lettre qui annonce sa mort à mon arrière-grand-mère, qui commence par « J'ai l'honneur ». C'est-à-dire l'officier avait l'honneur d'annoncer la mort à mon arrière-grand-mère. Et on parle d'enfance, c'était dans l'enfance, c'est une révolte qui est montée en moi. Je me suis mis à lire sur cette guerre-là, sur cette guerre pour rien, sur ce truc-là immonde. La première fois où on a envoyé des gamins qui n'étaient pas issus de l'armée de métier. Avant, c'était des guerres de métier, finalement. Là, on a envoyé des gamins se faire tuer pour rien du tout. Et pendant 40 ans, cette révolte a enflé en moi et est devenue quelque chose de... Sans savoir que j'écrirais un livre, j'ai pétri cette pâte, cette glaise. Justement, le titre vient plus de là que la glaise des tranchées. Et un jour, ce type-là s'est mis à me... Ça paraît un peu schizophrénique, mais il m'a dicté une première phrase qui était « Ce qu'il advint cette nuit-là, le ciel seul en décida ». Ça veut dire que le livre, pendant 40 ans, je l'avais écrit dans ma tête. Et un jour, cette première phrase a enflammé la mèche. Et ça a coulé. C'était pas son histoire, c'était une autre histoire. Ce Joseph-là, c'est pas le Joseph de mon arrière-grand-mère. Mais je me suis mis à écrire ma révolte, mon obsession, voilà, de cette guerre-là, etc. Et j'ai raconté cette histoire-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que cette image mentale, cette émotion-là, qui venait de l'enfance, m'a permis d'écrire ce livre-là. Et je crois que les livres... comme les œuvres sont déjà écrites, c'est déjà là. Et ça survient quand c'est prêt. Et je ne peux pas accueillir une image mentale si je ne me suis pas débarrassé. C'est-à-dire, une fois, tant que je n'avais pas fini ce livre-là, je ne pouvais pas accueillir une autre image et écrire autre chose. Parce que dès qu'on entre... Tout à l'heure, j'étais en atelier d'écriture et il y a une fille de votre âge qui me disait « Mais moi, j'adore écrire, mais c'est trop de travail. » J'aurais peur de ne pas aller au bout, etc. Effectivement, c'est un peu de l'inconscience, c'est beaucoup de travail. Mais une fois qu'on est dedans, on ne peut plus en sortir. Et on écrit aussi quand on n'écrit pas, et on ne s'en rend pas compte.
Donc vous écrivez pour faire ressortir vos histoires, l'histoire que vous, enfant, aviez, que vos souvenirs ont pétri, tout ce qui a été créé auparavant par... toute cette construction, finalement, de la personne que vous êtes, c'est aussi la personne qui écrit l'histoire par différents seuils. Le rappel du souvenir, ces personnes, comme vous dites, qui vous dictent cette phrase de début, ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup chez vous. Je veux dire, pour écrire un livre, vous avez besoin de ce genre de déclic ?
Ouais, c'est très juste, ouais. Très très juste, très très bonne analyse. Quand on écrit, le truc c'est il faut accepter d'être possédé. Il faut pas se... Alors il y a plusieurs façons d'écrire des livres. On peut construire des personnages. C'est-à-dire je regarde des gens dans la rue comme ça et puis je m'en inspire pour créer des personnages. Mais parfois, il y a des personnages qui vous arrivent comme ça et qui prennent possession de votre peau. Moi, la plus belle définition de l'écriture que je connaisse, c'est écrire, c'est disparaître devant ce qui n'existe pas encore. C'est pour ça que c'est intéressant ce que vous dites, c'est que moi, il n'y a pas de pourquoi. C'est-à-dire que j'avais pas le projet d'écrire un livre sur l'absence des hommes, un ogre là qui terrorise un peu ce milieu-là. Dans un coin paumé du Cantal, j'avais pas du tout ce projet-là, quoi. Les personnages, ils surviennent et ils ont quelque chose à raconter. Et le truc, c'est qu'il coûte beaucoup. C'est plus difficile, ça demande beaucoup plus d'énergie d'être possédé par un personnage que de le construire, évidemment, parce que vous lui prêtez votre peau.
Oui.
Et donc, à ce moment-là, il faut plus faire machine arrière, c'est-à-dire ne plus jamais se poser la question du lecteur. Et comment le lecteur va recevoir l'histoire ? Parce que si je me mets à faire ça, on va faire un speed dating. C'est-à-dire, ah non, là, je vais pas les choquer, je vais aller un peu trop loin. Ces pauvres petits chéris, il faut les ménager. Ah, puis là, ça va être chouette, je vais les surprendre, etc. Non. Vous racontez votre histoire avec ce que vous êtes vous profondément. C'est-à-dire ce que les personnages...
qui vous habitent.
Voilà, exactement. Et après, vous comprendrez peut-être ce que vous avez voulu faire. Et moi, ce qui est très drôle, c'est que quand je me retrouve... Une fois que j'ai terminé le livre, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je vous assure, je ne sais pas. Je ne sais même pas si l'histoire tient quand je la file à mon éditeur. Et puis c'est souvent, en rencontre, les lecteurs, ils m'expliquent ce que j'ai fait. J'ai écrit un livre qui s'appelle « N'est d'aucune femme ». Moi, j'avais pas du tout perçu le truc du conte de fées, Barbe Bleue, etc. L'enfance, encore une fois. Le premier truc qu'on m'a raconté, c'est des contes de fées. Enfin, c'est contes de fées, pardon, mais... Barbe Bleue, Le Petit Poucé, waouh, ça m'a, je suppose que ça m'avait, on parlait d'obsession, terrorisé quand j'étais gamin. Et bien, c'est sorti sous cette forme-là. Mais il n'y a pas de... Il ne faut jamais poser la question du pourquoi à un peintre ou à... Non. Parce que ça pose la question de... Ça demande une réponse formelle. La seule réponse, elle est là.
Donc pour vous, ça ne se décide pas, ça se fait, ça se construit et on voit le résultat à la fin.
Ah mais
et il n'y a rien d'autre avant.
Totalement. Soulage disait, c'est en faisant que je découvre ce que je cherchais. C'est en faisant, voilà. Moi, tous les matins, je n'attends pas la muse, l'inspiration divine comme ça et puis je me mets à travailler le truc un peu évanescent. Non, moi je travaille sur un atelier de, sur un atelier de menuisier. C'est mon bureau, c'est un atelier de menuisier. Et tous les matins, je m'y mets, sans savoir ce qui va en sortir. Des fois, c'est deux phrases, des fois, c'est trois pages. Peu importe, il y a toujours quelque chose. Des fois, c'est pas bon, des fois, ça coule tout seul, je sais pas. Mais le fait de s'y mettre, voilà, travailler ce truc d'artisanat, là, il se passe quelque chose, forcément. J'ai des outils. Tous les écrivains ont les mêmes outils. Hein, alors, moi, je travaille pas directement à l'ordinateur. Je travaille sur des cahiers, mais voilà. On a les mêmes outils, c'est-à-dire on a les mêmes lettres de l'alphabet, les mêmes mots, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est-à-dire quelle musique intérieure on va faire de ça? Ce que j'appelle ça la musique de l'âme, c'est ce qu'on appelle le style. Voilà. Parce que toutes les histoires ont été racontées, je ne suis pas le seul à le dire, mais comment on vous raconte Le Petit Poucet aujourd'hui? Comment on vous raconte Barbe Bleue aujourd'hui? Il y a des moyens de le faire avec sa propre musique. La façon dont on agence les mots et que ça suscite de l'émotion. La nuit je mange, je prends des trains à travers la plaine. Ça y est, il me raconte déjà une histoire. Je peux poser des émotions dessus. Alain Bashung.
Donc, en fait, si je résume bien, vous écrivez, c'est avec ce qui vient.
J'ai pas entendu le début, pardon.
Si je résume bien, vous écrivez avec ce qui vient, comme ça, et vous écrivez parce qu'il faut écrire, sans réfléchir vraiment.
J'écris comme je suis, et ce que je suis, je sais pas. Alors, je continue d'écrire.
Très intéressant.
Vous parlez beaucoup de l'enfance et pourtant vous avez écrit, je crois, que des livres pour adultes. Est-ce que c'est justement comme vous disiez tout à l'heure, il faut se restreindre un peu plus pour écrire des livres pour les enfants, pour ne pas les choquer?
Ah, c'est une question délicate. J'estime que c'est pas parce qu'on écrit des livres pour adultes qu'on parle pas de l'enfance. Alors, effectivement, il y a des choses qui... Je ne conseillerais pas de lire Glaise à un enfant. Il y a des scènes assez dures, même n'est d'aucune femme. En revanche, ça pose la question du cadre et des genres. Je déplore aujourd'hui que la littérature soit découpée en tranches. 6-8 ans, 8-10 ans, 10-12 ans, 12-14... C'est quoi là? Moi, à 13 ans, on m'aurait interdit de lire L'île au trésor. Parce qu'il y avait des squelettes, parce qu'il y avait des... On me l'aurait interdit. Ma plus belle découverte littéraire de cette époque-là. On me dit qu'il faut écrire un polar, donc il faut qu'il y ait un flic, il faut qu'il y ait une énigme, ok. Un roman noir, donc, c'est un roman social, etc. Une romance, non. Moi, je viens pas de ce monde-là, je viens pas du monde littéraire. J'ai fait des études agricoles, des études de biologie, mais voilà, je me suis mis à lire très tôt. Et je savais que, même si mes parents m'ont dit qu'il fallait faire un métier sérieux, ce que j'ai fait, j'ai jamais décroché du truc en cachette, parce que je savais que c'était en moi. Mais sauf que personne ne me guidait, et je me suis mis à lire de la bande dessinée, de la poésie, du théâtre, des romans noirs, des romans policiers. Et ça a fait de moi quelqu'un de curieux, et petit à petit, je me suis mis à... Je pense à me faire un grain de voix un petit peu singulier, mais qui venait de cette culture complètement éclatée, et pas académique. Donc finalement, je trouve ça assez... Je suis assez content de ne pas avoir fait d'études littéraires.
Donc vous préférez ne pas avoir affaire aux cases et aux genres, vous préférez vous affirmer être libre dans votre manière d'être, et c'est ce que vous essayez de faire véhiculer par certains de vos livres peut-être ?
Ah ben moi dès que j'entre en écriture dans un texte, c'est un espace de liberté totale. Et je suis un écrivain transgenre, totalement. C'est-à-dire que s'il peut y avoir des codes... Moi, on m'a collé l'étiquette, j'ai eu le prix SNCF du Polar, qui est le plus grand prix des lecteurs en France. D'ailleurs, chacun peut voter. Deux vieux bonhommes dans les Cévennes, un chien, la neige. Où sont les codes du Polar ? Voilà. Et peu importe, ça prouve que... Un lecteur, il y a des bons livres, il y a des mauvais livres, il y a des livres qui fonctionnent, des livres qui ne fonctionnent pas, peu importe. Mais on a besoin quand même en France de coller des étiquettes comme ça aux auteurs. Et une fois qu'ils sont catégorisés polar, roman noir, feel good, etc., pour en sortir, c'est très compliqué. Alors que non, pas forcément, on peut mélanger tous ces codes-là dans un même livre. Est-ce que aujourd'hui, le Comte de Monte Cristo, je suis sûr qu'il serait dans la case polar, le Comte de Monte Cristo. Ben oui. Et Les Misérables, ce serait un roman noir. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Ce sont deux immenses livres.
Et donc, vous parliez de bons livres, mauvais livres. Est-ce que pour vous, il y a vraiment une ligne à suivre pour être un bon livre ou par rapport à ce que vous écrivez, ou justement, ce fait, comme vous expliquez, d'être transgenre, un écrivain transgenre, est-ce que pour vous, ça signifie que même à travers différents genres, vous pouvez vous exprimer toujours de la même manière ?
Mauvais livre, bon livre, c'est très subjectif, parce que ça va être mon jugement à moi. Il y a des livres de divertissement. Moi, j'aime être diverti à des moments. Mais la littérature, c'est-à-dire les quelques livres qui vous restent au bout d'une vie, ce sont les livres qui vous ont mis en danger. C'est-à-dire, c'est pas des livres rassurants. C'est pas les livres doudous où on va vous raconter la même histoire comme quand j'étais petit ou quand mes enfants étaient petits. Il fallait que je leur raconte toujours la même histoire le soir. Si je changeais une virgule, je me faisais ramasser. Non, c'est pas ça. C'est pas de côté que vous allez faire. Vous êtes lectrice ? Vous êtes lecteur ?
Oui.
J'imagine. Bon. Eh bien, à un moment donné, vous allez faire ce pas de côté. C'est-à-dire, vous allez sortir de votre zone de confort. Et il y a des livres qui révèlent des choses intimes de vous, que vous pouvez pas dire à vos copines ou à vos copains, mais qui vous permettent de mieux vous comprendre. Et donc, il y a quelques livres comme ça que vous pourrez relire jusqu'au bout de votre vie. Moi, Hamlet, je l'ai lu 3 fois. Je sais que je le lirai au moins 3 fois de plus. Parce qu'il ne me raconte jamais la même histoire. Il me parle de passions humaines. Il y a ce socle commun. Pourquoi ça nous parle encore aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr que certains feel-good, aujourd'hui, on les lise dans 5, 6 ans, 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a ce qui est de l'ordre du divertissement, et puis il y a les livres importants, qui ont ce socle universel. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire par bon livre, mauvais livre, sans être condescendant ni pédant. Il y a des livres importants. Et le lecteur a ce rôle-là. Il a un rôle d'exigence à un moment donné.
Donc vous avez pour vous, Céleste, une question ?
Oui, vous disiez tout à l'heure que vous ne recommanderiez pas à des enfants de lire Glaise. Et pourtant vous dites que vous ne supportez pas les cases, enfin qu'on enferme vos livres dans des cases. Du coup, comment on fait cette distinction entre livre enfant, livre adulte ?
Non, je voulais juste dire que, et après c'est très subjectif, Née d'aucune femme, il y a une scène d'une extrême violence, mais une extrême violence. Certains ont arrêté le livre, l'ont repris parfois, plus tard, parce qu'il y avait des raisons à cette violence-là. Et en même temps, j'ai des jeunes filles de 14 ans qui sont venues me voir en pleurant, m'ont dit que c'était leur plus belle expérience littéraire. Donc je ne sais pas quoi répondre à ça, mais je comprends que ça puisse choquer à un moment donné. Et c'est là où le lecteur... Moi, je respecte tout à fait, à un moment donné, non, c'est trop pour moi, je laisse le livre, je le pose, terminé. Voilà. Mais moi, jamais j'irai dire à un lecteur ou une lectrice quelconque de dire non, lis pas ce livre. Des fois, j'entends ça, lis pas ce livre parce qu'à un moment, c'est trop violent pour toi. Et qu'est-ce qu'on sait des gens ? Ma mère, j'aurais jamais pensé qu'elle... Je pensais que cette violence-là, elle l'aurait pas pu... C'est son livre préféré. Voilà, on connaît pas les gens. on sait pas grand-chose d'eux, hormis ce qu'on veut bien montrer.
Donc finalement, vous ne parlez pas de cases à proprement parler, mais de jugement de ce qu'on est capable de vivre et supporter pour lire ici Glaise, mais ça pourrait être d'autres livres.
Oui, mais c'est parce que on peut pas spéculer sur l'expérience des gens.
Oui.
Parce que ça parle toujours d'une expérience. C'est-à-dire les gens qui sont choqués, c'est que ça parle d'eux. Et ça, on peut pas. Je peux pas juger de ça. C'est très respectable. Moi, je me souviens, ça m'est arrivé qu'une seule fois en médiathèque. Il y a une dame qui s'est levée à la fin de la rencontre dans une colère et qui se lève et me dit « Mais de quel droit vous avez écrit sur le viol d'une jeune fille de 14 ans ?» Et je l'ai laissé. On sentait que c'était une colère qui était intime, tout ça. Et je l'ai laissé parler, donc elle s'est calmée petit à petit. Donc je lui ai dit, mais de quel droit vous me l'interdiriez? C'est parce que je suis un homme? Déjà génétiquement, je suis 50% homme, 50% femme. Je suis blanc, j'ai pas le droit d'écrire sur un noir. Ce qu'on a interdit à un merveilleux auteur de jeunesse, qui s'appelle Timothée de Fombelle, son livre a été interdit aux États-Unis. Oui. C'est un copain.
Oui.
Je suis hétérosexuel, je peux pas parler d'un homosexuel? C'est quoi? C'est pas... Quand je disais être possédé par un personnage, ben, le personnage, vous le choisissez pas. Il vous arrive et vous devez bien faire avec. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Et la puissance justement de l'art, le seul intérêt de l'art, c'est de nous décentrer de notre petite personnalité et puis de nos points de vue et de nos jugements. C'est de nous soulever. Moi, je ne connais pas d'autre activité humaine qui permette d'échapper au temps. Qui permette de... Parce que faut reconnaître qu'on est quand même bien souvent plaqué à cette foutue croûte là. Hein. On est pesant. Eh bien, l'art, c'est quelque chose qui nous permet de nous transcender, de nous soulever. Voilà.
Alors j'ai une question. Vous disiez que finalement, on ne peut pas dire à quelqu'un « ne lis pas ce livre, il y a trop de violence pour toi, ça te choquerait, etc. » Alors comment recommanderiez-vous à quelqu'un un livre? Est-ce que pour vous, finalement, c'est impossible du fait que s'il est impossible d'interdire à quelqu'un de lire un livre, il est autant impossible de prédire s'il va aimer ou pas?
Ben, vous avez répondu à la question en la posant. C'est-à-dire que moi, je vais être passionné par un livre, je vais vous dire, mais c'est absolument génial, mais je parle de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux vous dire que je suis complètement dingue de Faulkner et de Cormac McCarthy, et puis ça ne va pas vous parler. Mais je peux essayer de vous convaincre, effectivement. Mais, enfin, de vous convaincre, de vous passionner aussi, mais après, vous faites ce que vous voulez. Mais ces livres-là, ils parlent de moi. Et vous n'êtes pas moi.
Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses.
Je vous en prie.
Donc vous écrivez pour vous? Est-ce que vous écrivez plus pour vous que pour les autres?
Ah non, j'écris pour moi. Il n'y a pas d'autre manière d'écrire. Hein.
Et du coup, pourquoi vous publiez vos livres? Pourquoi vous les rendez accessibles à tout le monde?
Ah non, il y a une grosse différence. On écrit pour soi, mais on écrit pour être lu. À quoi ça sert sinon? Et ce qui est fabuleux, c'est, je parlais de speed dating tout à l'heure, c'est-à-dire que la rencontre, elle est fortuite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de prémédité. Moi, je n'écris pas pour vous plaire. Mais ce qui est fabuleux, c'est quand vos livres parlent aux gens. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a une part d'humanité commune. Une part structurelle commune. Une part passionnelle commune. Et ça, c'est pas construit. C'est ce que je voulais dire.
D'accord, merci.
Oui, c'est le rabbin Marc-Alain Ouaknin qui a cette jolie phrase d'ailleurs dans un de ses ouvrages qui dit « Lire un livre, c'est se lire dans un livre ». Donc il y a le même mouvement aussi pour le lecteur. Autant l'auteur écrit pour lui, autant le lecteur attrape ce qui se raconte de lui aussi, également ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Effectivement, très intime comme geste. Alors, portrait chinois. Philippe, tu nous envoies un jingle?
Il arrive.
Si la machine le veut bien, sinon, ma foi, on pourra le faire avec les moyens du bord. Donc, c'est une petite question un peu farfelue pour en savoir un peu plus sur vous. Voilà, donc il y a un petit sachet. Il s'agira de tirer un, voire deux papiers si vous avez envie de nous dire un peu plus sur qui vous êtes.
Et maintenant,
le portrait chinois.
Il faut que je tire un papier.
Oui, c'est ça.
Oui. J'ai le droit de changer la question, en fait. Si j'étais un livre, je serais Absalon Absalon, William Faulkner.
Très rapide. Très con. Vous avez déjà réfléchi à ce genre de questions ?
Ben, je sais le livre, total, le roman absolu, le chef-d'œuvre absolu, oui.
Pourquoi d'après vous ?
Mais si je réfléchis, j'aurais peut-être dit Hamlet, j'aurais peut-être... Non, j'aurais dit Absalon.
Vous êtes donc convaincu, mais ouais. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Ou encore une fois, ça, c'est trop en rapport avec...
Mais je ne vais pas essayer de vous convaincre.
Cet
auteur-là
connaître.
M'a résisté pendant 30 ans. Je trouvais que c'était mal écrit, pas bien, tout ça. Et puis j'ai eu la révélation, le déclic à un moment donné. C'est le grand génie de la littérature. Mais beaucoup trop... On parlait d'intime, justement, d'écrire pour les autres. Vous posiez la question tout à l'heure. Et lui, quand il a reçu le prix Nobel... Bah, c'était un peu, il avait un petit sourire en coin comme ça. Il leur a dit au Nobel, j'ose espérer que vous m'invitez pour mon œuvre et non pour ma petite personne. Ça veut dire qu'on s'en fout de l'auteur. Ce qui est important, c'est ça qui reste, pas l'auteur. Hein.
Alors vous pouvez peut-être retirer un papier à nouveau.
Le livre que je déteste le plus. Si j'étais une réplique ou un proverbe, je serais. Ah oui, j'aime beaucoup ce petit aphorisme de Jean Carmet qui dit celui qui dit qu'il est arrivé, c'est qu'il n'allait pas bien loin. J'aime beaucoup ça.
Ben écoutez, merci beaucoup.
Merci. On va laisser la parole à Elliot qui a choisi une musique pour vous. Alors, Elliot, c'est peut-être un choix purement issu de ta synchronicité personnelle, mais peut-être tu peux nous présenter le titre que tu as choisi pour Frank Buis. Non, tu veux pas le présenter ? Je vois des yeux tout ronds, des mains qui se tendent. Bon, alors, il va falloir encore remplir un peu ce vide sidéral. Bien. Et un problème de micro. Bien, écoutez, cette journée est riche d'imprévus. C'est la vie, le temps présent. Oui, vous disiez que j'ai bien aimé cette image de l'artisan à son établi. Du coup, est-ce que vous avez des rituels que quand vous écrivez, en tout cas de ce que j'ai entendu, de la discipline, heure fixe, lieu fixe, est-ce qu'il y a un cadre que vous vous imposez pour faire
cadre
advenir
non,
les
rituel,
musées.
Oui, ouais. Parce que comme j'ai besoin d'écrire tous les jours, je transporte mon atmosphère, mais effectivement, il y a des cahiers, les mêmes types de cahiers, le même stylo, le même immonde cigario italien, et grosso modo, voilà, c'est parti. Et là, alors quand je suis en dehors de chez moi, c'est la musique sur les oreilles, ouais. J'ai besoin de la musique.
Bon, voilà.
Mais je pourrais écrire sur la terrasse en face, alors voilà.
D'accord.
Une fois que je suis parti.
Donc la musique, c'est pas ce rapport à l'absence de silence, c'est pas difficile pour faire advenir les mots.
Je voudrais un bonhomme.
Mais pas du tout. En revanche, c'est que quand je commence à écrire un livre et que je commence à écouter une musique, j'écouterai toujours la même jusqu'au bout du livre.
Tu n'es plus vraiment toi.
C'est-à-dire, si c'est Barber, ça va être Barber tout au long du livre. Si c'est Bieber, si c'est Billy Holiday, ça sera Billy Holiday jusqu'au bout.
Donc en fait, on pourrait presque associer un roman à un titre.
Moi,
quoi.
Je vous l'associe systématiquement. Je le dis pas, mais oui. Moi, chaque roman est associé à une musique.
Ça pourrait être intéressant. Ouvrage posthume, Frank Buis, la playlist de Frank Buis.
C'est ça.
On pourrait le suggérer à vos éditeurs.
Pourquoi pas.
Et vous êtes en cours d'écriture actuellement ?
Je suis toujours en cours d'écriture.
Ouais. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est dont vous pouvez nous parler ou c'est... Vous parlez de ce que vous écrivez une fois que c'est publié ?
Moi, j'en parle pas. Non.
N'en parlez pas ?
Non.
Alors, on vous interrogera pas dessus. Ça a peut-être une grosse obsession, là.
Après, je fais d'autres choses que écrire des romans. Donc, mais le roman, non, j'en parle jamais. Ce qui est en cours, j'en parle pas.
Moi, j'avais une petite question aussi sur le processus d'écriture, qui est finalement une question qu'on peut poser un peu à tous les artistes, ce rapport entre le vide et le plein. Vous dites que vous écrivez tout le temps. Moi, pour ma part, je fais du théâtre, c'est mon métier. Après un spectacle, c'est très difficile pour moi de relancer un processus de gestation s'il n'y a pas un tout petit peu de vide. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Est-ce que vous écrivez constamment ou est-ce que vous avez besoin de passer par un temps de vide, de retour au chaos originel avant d'entamer un nouveau processus ?
Il y a toujours un chaos. Moi. Tout c'est comment on l'articule, le chaos.
J'ai préparé.
Non, je me dis toujours, mais repose-toi. C'est tellement épique. Non. Ça dure... C'est reparti des fois le lendemain, quoi. Il y a une autre image qui surgit comme ça, qui était prête. Mais non, je suis toujours en train d'écrire. Quoi.
Ok. Mais peut-être qu'un jour, ça changera. Mais il y a une exclusivité pour voilà, une matière qui vous habite.
Tant que le livre n'est pas fini, je ne peux pas commencer autre chose.
D'accord. Mmh. Intéressant. Merci beaucoup.
Chacun fait comme il peut. On a tous des processus différents. C'est ça qui est passionnant. Quoi. J'ai des copains qui ont besoin de se reposer, des fois une année, etc. Non, mais ça vient peut-être de mon éducation aussi, ce côté artisan, que j'ai besoin de travailler, besoin de faire. Ce côté un peu Montaigne. Hein.
Complètement. Oui, c'est sûr que c'est une... Enfin, peut-être que dans nos sociétés, on sacralise un peu trop la place des artistes, comme vous disiez tout à l'heure, l'inspiration divine, mais en fait, le travail concret. Hein. Et vous avez une maison d'édition qui vous suit depuis tout ce temps-là. Il y a une fidélité. C'est quoi le rapport aux éditeurs ? Parce que vous disiez, vous produisez, puis en fait, finalement, c'est votre éditeur, c'est votre premier lecteur, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être que vous faites lire avant à quelqu'un d'autre que votre éditeur, mais...
J'ai deux lecteurs, premier lecteur avant l'éditeur.
D'accord.
Mais bon, j'ai déjà le texte est déjà bien abouti. J'ai fait 2, 3, 4 versions avant de faire lire à qui que ce soit.
Ok.
J'ai deux éditeurs, enfin j'ai Albin Michel qui est mon éditeur premier, j'ai Phébus aussi parce que je fais une série avec eux, puis après j'ai des petits je fais du scénario de bande dessinée aussi, donc j'ai quelques voilà, j'ai fait un article pour Zadig ce mois-ci, je fais des petites choses, des préfaces de livres quand le livre me plaît, voilà, plein de petites choses à côté.
Ouais.
Des petites récréations, je fais une chronique pour Centre France, une chronique mensuelle.
Ouais, la question par rapport à l'éditeur, moi c'est vrai que je connais pas grand chose au monde du livre, mais parfois quand on voit la correspondance de certains grands auteurs du début du 20e, on se dit oh là là, je pense par exemple à Gallimard ou à d'autres maisons d'édition, c'est vraiment une relation quoi entre l'écrivain et celui qui va permettre de diffuser l'œuvre.
Ça a quand même sacrément changé.
On reste, c'est une vision un peu romantique.
On parle plus de coûts éditoriaux que de. Que d'auteurs qu'on va suivre, etc. Puis il y en a beaucoup plus d'auteurs. Il y a plus d'auteurs aujourd'hui que de lecteurs. Bientôt, ça va être... Tout le monde écrit.
Est-ce que ça vous arrive, justement, que l'édition vous renvoie à des arguments économiques ou on parlait de speed dating, des arguments qui vous demandent de retravailler votre livre, justement, en projetant un lectorat ?
Alors, pas en termes économiques, moi ça m'est jamais arrivé. Voilà, j'ai toujours écrit ce que j'avais envie d'écrire. En revanche, retravailler le texte avec l'éditeur, enfin mon éditrice en l'occurrence, qui est Véronique Ovalde, bien sûr, on discute. Hein. Moi je suis pas du tout. On est tellement dans le texte qu'on n'a pas de recul et à un moment donné, il faut justement ce regard extérieur pour dire mais non, là, ça, le personnage là, il peut pas réagir comme ça. Effectivement. Mais c'est jamais... ça se fait toujours en bonne intelligence. Quoi. Mais moi, je ne comprends pas qu'un romancier puis dit « Non, mais on ne touche pas à mon texte, c'est formidable, je suis génial, etc. » Non, c'est pas possible. Un texte ne peut pas être abouti. Parce qu'à un moment donné, on est trop dedans.
Ok. Et j'avais une dernière question. Est-ce que vous disiez que, voilà, vous... En fait, chaque œuvre est une expérience complète. Pour ce qui est de vraiment du style, alors peut-être que c'est un mot qui fait pas partie de votre vocabulaire, mais Est-ce qu'il y a la forme? Il faut bien trouver une façon de faire naître ces images, ces sensations, ces motifs, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un fil conducteur dans votre écriture ou qu'au contraire, c'est quelque chose que vous expérimentez à chaque nouveau projet? Et est-ce que vous laissez surprendre aussi par votre façon d'écrire? Ou il y a quand même quelque chose, une pacte Frank Buis, que quand on lit un roman, on se dit ça. Chez Faulkner, par exemple, il y a quand même un style.
J'espère. J'espère. C'est ce qu'il y a de plus important. S'il n'y a pas de style, moi, je referme le livre. Hein, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, quand on me raconte une histoire, ça m'en fout complètement. Réconcilier le romanesque avec le style, ça, oui, c'est intéressant. Alors, c'est pas trop dans l'air du temps, aujourd'hui, puisqu'on fait des phrases courtes, parce que les pauvres petits chéris, les lecteurs, ils ne comprendraient pas, sinon, hein, évidemment. Ils sont idiots, les lecteurs. Pardon, c'est du deuxième degré. Hein. Vous êtes capable de lire une phrase longue à un moment donné avec des virgules. On lirait plus Proust aujourd'hui, par exemple. En plus, je pense qu'il ne serait pas édité aujourd'hui.
Ce que je voulais dire par rapport au style, c'était est-ce que chaque roman amène...
Oui, j'y venais.
Ouais.
Il s'est passé un déclic avec un livre qui s'appelait Vagabond. J'ai trouvé, vous savez, la note, une musique intérieure, vraiment. Mmh. Mais parce que je m'étais nourri avant. C'est-à-dire que... Je compare souvent ça à une maison qu'on est en train de construire. Moi, Faulkner disait, on réinvente pas la littérature, on est des pilleurs de tombes. Donc moi, quand j'ai ramassé quelques pierres que Homère avait semées, que Shakespeare avait semées, que Baudelaire avait semées, que Faulkner avait semées, puis j'ai essayé de faire ma petite maison avec, mais c'est la mienne. Même si elle a un petit côté bancal, c'est la mienne de maison. Et avec Vagabond, j'avais ramassé suffisamment de pierres, j'avais trouvé une musique interne, comme ça. J'avais trouvé un rythme. Et il ne m'a plus jamais quitté. Et j'ose espérer que quand on prend un livre de moi, on sent cette musique-là. C'est ce qu'on appelle le style, quoi, voilà. C'est ce truc-là qui déroge à la règle. C'est-à-dire que ça peut être des envolées sur des phrases assez longues, comme des vagues, comme ça, qui moutonnent et qui redescendent. Et puis... entrecoupé avec des choses très courtes, etc. Il n'y a pas d'explication, mais ça fait une singularité dans l'écriture. Ouais. Ouais. Effectivement, Faulkner est reconnaissable, McCarthy est reconnaissable. Les grands écrivains sont ceux qui... vous entrez dans leur atmosphère, vous êtes piégé en fait, autour de la planète. Simenon faisait ça. Simenon, c'est incroyable. Quoi. En produisant autant, dès que vous entrez dans les deux, trois premières phrases de Simenon, ça y est, vous êtes piégé. Il ne vous raconte pas grand-chose, mais vous avez envie de le suivre. Voilà. J'appelle ça la musique de l'âme, voilà, le style. Voilà, c'est ce truc-là.
Un peu comme Virginia Woolf, par exemple, avec les vagues.
Exactement.
C'est un exemple parmi d'autres,
exactement,
mais
ouais.
Effectivement, les Virginia. Grands écrivains sont parfaitement identifiables. Est-ce que les jeunes camarades qui m'entourent souhaiteraient conclure cette rencontre avec M. Buis par une dernière question, une remarque?
Alors, j'avais une petite question qui ne m'est pas venue à l'esprit avant et ça m'étonne. Est-ce que vous avez toujours été dans cet univers de la lecture et de l'écriture et comment est-ce que vous avez été motivé à devenir écrivain, à en vivre surtout?
Ah, alors ça faut remonter le temps. Moi je lisais pas, il n'y avait pas de livre chez moi. À 13 ans, je crois, un truc comme ça, j'ai eu une grippe carabinée et ma grand-mère avait récupéré des bouquins. Et comme je n'avais pas d'autre chose à faire, et je me souviens, toute ma vie je m'en souviendrai, il y a Les Enfants du Capitaine Grant, je ne sais pas si on lit encore Jules Verne de nos jours, L'île au trésor, Stevenson, un recueil de Sherlock Holmes, Conan Doyle, et il y avait une version un peu expurgée de l'Iliade et l'Odyssée. La plus belle grippe de ma vie. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est ça que je veux faire. Sauf que, voilà, je parlais tout à l'heure qu'il fallait faire un vrai métier, voilà, j'ai fait d'autres choses, mais je me suis mis à écrire à ce moment-là, je me suis mis à lire de façon boulimique, tout ce qui me passait sous les yeux, je lisais tout. Je savais que la littérature serait l'affaire de ma vie. Je savais pas comment je m'y prendrais, je savais pas si j'écrirais des livres un jour, mais je savais que je lirais tout le temps. Et puis, des rencontres. Je me suis mis à publier des... Mon premier roman, c'est avec un éditeur régional de Limoges. On s'est croisés, j'écrivais dans un bistrot. Et on s'est croisés comme ça. Il bossait aussi le matin, voilà. Et puis après, un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami m'a conseillé d'envoyer un manuscrit à des éditeurs parisiens. Un manuscrit qui s'appelait Gus à l'époque, est devenu Grossir le ciel. Et deux jours après, il y a un éditeur qui m'appelait pour me dire qu'il voulait bien me publier. J'ai cru que c'était une blague de mon pote, j'ai pas répondu. Enfin, c'était un message sur le répondeur. Heureusement, il m'a rappelé. Et l'aventure est partie comme ça. La boule de neige a enflé, puis j'ai écrit ce qu'on pourrait appeler un best-seller au sens où voilà, le livre a explosé les ventes, a été traduit dans le monde entier, et m'a acheté ma liberté finalement. J'ai arrêté mon vrai métier et je fais plus que ça aujourd'hui. Voilà comment ça s'est passé. Donc plein de moments, mais j'ai jamais lâché l'affaire. C'est-à-dire quand on a une obsession, quand on a une passion, faut pas lâcher l'affaire.
Tout cela grâce à une révélation lors d'une grippe carabinée.
Exactement.
Et bien, merci beaucoup, Franck Bouis, d'avoir été avec nous et d'avoir pu répondre à nos questions. Sauf si Romain a une question avant.
Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être parrain du Livre-Drôme ?
Je suis comme tous les autres auteurs ici, sauf que... Ouais. Je sais pas quoi répondre à ça. Je me sens pas différent des autres auteurs ici, si ce n'est que... Bon, peut-être parce que j'ai une petite notoriété. Enfin, peu importe. En tout cas, je suis épaté de l'organisation, de côté ludique. Je trouve ça vraiment formidable. J'avais jamais vu ça, quoi. Donc, bravo à ceux qui ont organisé ça, qui ont eu l'idée de ça. De lire dans les arbres, là-bas, je trouve ça incroyable. Donc, non. Donc je suis fier évidemment, mais pas plus qu'un autre auteur qui se trouve ici.
D'accord, voilà. Merci.
Merci à vous.
Donc cette fois-ci, merci beaucoup Franck Bouis d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions et nous espérons que vous allez pouvoir continuer dans cette lancée. Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Bram FM en direct du Livre-Drôme, des livres, des auteurs, des illustrateurs,
des jeux, des chèques gagnés,
des débats enflammés, tout ça dans une émission marathon animée par des jeunes passionnés de lecture. C'est Kébaluz
et c'est sur Bram FM.